Mathieu Amalric, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est pas le comédien que j'ai le plaisir de rencontrer, mais c'est le metteur en scène de Serre-moi fort, un film qui a été présenté à Cannes, qui fait l'ouverture du brief et qui sortira le 8 septembre.
Ouais.
Alors, tiré d'une pièce de Claudine Galéa, écrite en 2003, jamais jouée, et que vous avez la chance et le privilège de lire. Est-ce qu'on peut dire que vous avez beaucoup de chance, vous croyez au hasard?
Oui, c'est beaucoup de chance. Vous avez raison, parce que c'est un ami très très proche qui devait monter cette pièce, Laurent Zisserman. Il voulait la monter. Et puis, la vie a fait qu'il devait y renoncer. C'est comme ça, ça arrive. Et,
Depuis 15 ans quand même, après l'écriture.
Non, c'était il y a 4 ans.
Oui, mais je veux dire, depuis l'écriture.
Le fait que cette pièce n'ait jamais été.
Oui.
Alors, c'est un texte, là on est à la radio, mais je pourrais vous le montrer, je l'ai amené. Je peux vous montrer comment c'est écrit. C'est une écriture qui ne ressemble pas à une pièce de théâtre. C'est parfois des monologues, mais des fois les dialogues, c'est des personnages, il y a écrit A, C, B, D, vous voyez. Des fois, elle a joué énormément, Claudine Galéa, sur des chevauchements de voix. Il y avait des graphies différentes, avec des mises à la ligne, des fois c'est en italique, des fois c'est en gras, des fois avec des dispositions sur la page très particulières. Donc voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que quand Laurent m'a donné ce texte et que je l'ai lu dans un train, mais vraiment quelque chose m'a juste percuté. J'ai chialé, mais comme ça faisait très 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 longtemps. Je devais me cacher tellement j'avais, enfin, quelque chose était tellement intime, donc ça a touché un nerf. Bon, et c'est quand même un matériau au départ qui peut être éloigné du cinéma. Je l'ai fait lire à mes productrices, à Laetitia et Yaël, et elles ont été bouleversées par l'histoire aussi. C'est une histoire toute simple. Ce qu'a trouvé Claudine, qui est presque mythologique, c'est un système d'inversion, c'est-à-dire on n'a qu'à dire que je suis parti, comme ça vous êtes resté. Vous inversez les pôles. Et c'est tout simple. Mais là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que le cinéma pourrait explorer. On n'est donc pas loin du film de fantôme, peut-être, ou du film de convocation. Ça m'a fait penser à des rituels, à du spiritisme, qui est quand même pas loin de nous, enfermés dans une salle noire, en train de regarder sur un écran des choses qu'on sait très très bien fausses, pourtant on y a cru, donc elles sont vraies. Et c'était pas très éloigné du geste de Clarisse.
Alors, pourriez expliquer un petit peu ce travail qu'on pourrait dire de déconstruction du scénario, notamment dans la ligne du temps, mais aussi dans le mélange entre le réel et l'imaginaire? Ça existait déjà dans la pièce de Claudine. Moi, je vous imagine avec un mur blanc et plein de post-it.
Ah, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, ça existait dans le texte de Claudine. Vous voyez cette écriture. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que c'était une révélation finale. Et là, j'avais envie que le spectateur soit le plus proche possible du geste d'invention de Clarisse. Ce qui me bouleversait, c'était pas tellement la tragédie qu'elle traversait, c'était la beauté, c'était le geste d'invention, son geste d'invention, sa force, sa ludicité, j'allais dire. Elle a quelque chose, elle a de l'humour presque. Elle dit des choses des fois un peu obscènes quand elle fait dire à son enfant, qui n'est pas son enfant en plus, j'en dis pas plus, mais bon, son enfant qui aurait grandi, quand elle lui fait dire, et mon piano, il arrive quand? Il arrive, et qu'elle dit, mais quoi, il faut que j'attende le dégel? Et qu'on la voit sourire en disant, qu'est-ce qu'elle est con. Quand les spectateurs ont vu le film, enfin, c'est quand même de l'humour noir. Et il ne s'agissait pas de filmer un chemin de croix ni une Mater Dolorosa. Ça ne m'excitait pas du tout. En cinéma, ce qui me semblait excitant, c'était d'être donc dans son état de projection, dans son geste d'imagination. Et là, voilà, j'ai l'impression que ça ne pouvait donc ne pas être autre chose qu'un film.
Alors, vos comédiens, quand même, c'est assez magnifique, on peut en parler. Harriet, Pearl, c'est à ce moment-là que vous l'avez découvert. Mais d'un autre côté, ce qui m'a frappé en voyant votre film, je me suis souvenu d'un film que j'avais vu il y a 2 ans à Venise, À cœur battant.
Ah oui. Avec le Skype, bien sûr, ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est vrai. Mais on avait déjà fini le film. On avait déjà fini le film, et c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement assez incroyable. De cette transposition et cette relation avec quelqu'un qui n'existe pas tout en étant là.
Et maintenant que j'y pense, il y a un autre film que j'aime énormément qui s'appelle 12 000 Carrier à tourner, où c'est aussi un couple qui est éloigné l'un de l'autre. Et moi, j'ai pensé à la Talente. J'ai pensé à ce moment où Dita Parlow et Jean Dasté se sont fâchés, sont loin l'un de l'autre. Et qui pensent l'un à l'autre, c'est une scène qui a été censurée dans les années 30, et c'est une scène où ils se caressent l'un de loin, parce qu'ils sont. Et que ce soit les séparations amoureuses, l'onanisme, les plus grands fracas de la vie, les douleurs, les tragédies qu'on traverse, on est dans un état de délire. Et le temps et l'espace me semblent ne plus exister, et des fois même dans un couple. Lorsqu'on se sépare, on s'aperçoit que même les souvenirs qu'on pensait communs, en fait, ne sont pas du tout les mêmes, selon les points de vue. Et c'est d'où cette déconstruction qui me semblait proche de l'état dans lequel est cette femme.
Et Harry, vous lui avez donné des clés de lecture ou vous l'avez lancé dans le vide ?
Harry, c'est quelqu'un qui aime beaucoup remplir des carnets, échanger. On s'écrivait beaucoup, on se racontait des histoires. Vicky, elle travaille autrement. Elle travaille pour être presque, j'allais dire, une femme sans influence, pour reprendre. Mais c'est vraiment ça. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, on veut montrer qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a travaillé, et ça peut passer par des références, des textes, des films. Alors je lui avais donné Les gens de la pluie de Coppola, qui était aussi l'histoire d'une femme qui s'en va comme ça, et Vicky l'a pris ce DVD, mais elle m'a avoué, très récemment, qu'elle venait de le voir seulement, parce qu'elle, comment je lui en parlais, lui semblait plus pouvoir la nourrir que le film lui-même. Et c'est quelqu'un, par exemple, qui va choisir un parfum. Je l'ai appris après le tournage. Un parfum pour chacun des personnages qu'elle joue. Elle se met un parfum qui est son personnage. Elle va vous donner une playlist que lui a inspirée la lecture du scénario, ce qu'on doit faire. Elle vous donne des musiques. Incroyable. Elle va choisir une tresse, parce qu'elle pense que cette femme, vu l'état dans lequel elle est, elle ne se lave pas les cheveux. Et elle me dit que moi, je ne me lave pas les cheveux, je me les attache. Parce que tu ne peux pas, quand tu as les cheveux longs, garder les cheveux pas. Vous voyez, des choses comme ça.
Alors, Vicky, c'est quand même. On a l'impression qu'on l'a découvert cette année. 2 films à Cannes, le vôtre et Bergman Island. Il y a Hold, bien sûr, de Shyamalan. Et puis Beckett sur Netflix. Et pourtant, ça fait une dizaine d'années qu'elle est comédienne. À quel moment, vous avez pensé à elle et l'avez-vous découverte ?
Alors, moi, j'avais vu Le jeune Karl Marx. Et après, j'ai vu Phantom Thread. Mais quand je me suis enfermé dans cette maison en Bretagne où j'habite avec le texte de Galéa pour commencer, je crois qu'au bout de 2 jours, elle m'a visité. Et c'est elle qui m'a visité. Je parle vraiment mentalement, genre Jeanne d'Arc, quoi.
Carrément.
Alors c'est tout, j'ai pris mon téléphone, j'ai trouvé le numéro de son agent, il m'a répondu, il m'a dit Vicky, elle est à Paris dans 3 semaines, on se voit. J'avais pas de scène. Et il n'y a même pas, je fais pas, ça s'est passé. C'est une rencontre.
La musique est essentielle pour le film, dans votre vie.
Oui.
Vous êtes radiocassette ou haute technologie ?
Ah, je suis tout, moi. Je suis vinyle, je suis radiocassette, beaucoup cassette.
C'est interpellant, d'ailleurs, dans le film, on n'est plus habitué à ça.
Oui, Ben, c'est-à-dire que ce modèle de AMC Pacer-Break, à l'époque, modèle de 79, en fait, c'était même pas des cassettes, c'était des...
Des crosses, là.
Oui, des trucs de presque un pouce, quoi, des bandes magnétiques très larges qui faisaient que c'était de très, très bonne qualité, le son. Et donc, il fallait cet adaptateur qui permettait ensuite de mettre des cassettes. C'est ça qu'elle met, qu'elle chausse dans la voiture pour pouvoir...
Vous chantez sous la douche, dans votre voiture
Je vis avec une musicienne, quand même, depuis 6 ans, Barbara Hannigan, qui sera d'ailleurs à Bruxelles, là, dans 15 jours, pour commencer à répéter Loulou, pour le Théâtre de la Monnaie, qui sera là en novembre, quoi, un opéra de Berg. Mais j'ai fait du piano. J'ai fait du piano enfant. Le piano était présent dans le texte de Claudine. Cette chose d'objet de crispation et de délire et de fantasme d'une mère sur les progrès éventuels qu'aurait fait sa fille, que le piano souvent cristallise dans les familles. Et donc je me suis souvenu de mon trajet musical. Et puis après, je me suis dit, c'est beau quand même que Clarisse ait cette liberté de lâcher la bride à sa fille. Dans son invention, évidemment, et que ce qui est beau dans le fait d'avoir des enfants, c'est qu'à un moment, on se rappelle que ce n'est pas des enfants, c'est des êtres humains qui vous échappent et qui vont créer leurs propres paysages musicaux. Ouais. Et elle va aller, du coup, jusqu'à Ligeti. Et cette musique qu'on pense sortie d'elle quand elle fracasse le grand piano et qu'on croit que c'est juste des notes... répéter, c'est que des las, mais en fait c'est un morceau extrêmement difficile à jouer, composé que avec la note la de Ligeti, quoi.
La musique, c'est aussi ce qui vous a donné l'envie de changer le titre, puisque au départ c'était Je reviens de loin.
Oui, c'est vrai.
Dao.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et oui, la nage indienne devait être la musique sur laquelle il devait danser dans la discothèque.
Et de la rencontre.
Voilà, le flashback. Et à force de l'écouter, ce que je fais souvent quand je cherche des titres, ce serre-moi fort, je balançais entre deux choses. Je balançais entre que ma douleur soit moins forte. Donc, serre-moi fort, serre-moi moins fort. Que je t'oublie. Enfin,
c'est vrai que c'est beaucoup plus physique, finalement, que le titre initial de Galéa.
Oui, et aussi du texte de Galéa, où je savais, par exemple, que, comme j'étais obsédé par le genre du mélo, pour que le manque soit absolument odieux pour le spectateur, il fallait tout de même qu'on ait envie que ces deux-là ne soient jamais séparés. Mmh. Et du coup, il fallait absolument que Arié et Vicky donnent envie et que ce soit un manque physique, alors qu'ils ont si peu de scènes ensemble, quand même. On, à l'écran, ça passe par les voix, mais sinon, ils ont 2 scènes ensemble, même pas. Et ouais, c'était une écriture extrêmement sensitive, sensuelle, charnelle et très peu théorique, aussi dans le montage. Ça peut sembler construit, mais c'était une construction musicale avec éventuellement des contrepoints, des dissonances, des harmonies, des duos, des arias, vous voyez, des choses comme ça, plutôt que de l'intellect. C'est comme ça que ça s'est écrit.
Dernière question. Au niveau musical, vous êtes encore allé plus loin avec la comédie musicale des Frères Darieux, qu'on a vu aussi à Cannes, qui sort le 6 octobre.
Oui.
C'est un blanc-seing que vous signez systématiquement aux frères ou quoi? Ils peuvent vous présenter n'importe quoi, vous êtes partant.
Je suis leur...
C'est quoi? C'est une tribu, une famille?
C'est ça, c'est une troupe.
Enfin, Denis Lavant aussi, Sergi, etc.
Ouais.
Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même assez surprenant, une comédie musicale en 2021.
Ils avaient imaginé peut-être des acteurs un peu plus jeunes, et puis à un mois et demi du tournage, ils savaient que pendant le confinement, grâce à Barbara Hannigan, elle me donnait des cours de chant comme ça tous les soirs.
Ça,
et mais pas du tout pour le film, puisque je devais pas jouer dedans. Et puis bon, ben voilà. Et c'est comme lorsqu'ils me disent, ben maintenant tu vas être le plus grand alpiniste des Pyrénées. Mais les gars, bon, et ben tu plonges et tu vas explorer des zones que tu pensais pas. C'est oui, oui, je suis vraiment gâté pourri avec eux.
Incroyable. Alors, Serre-moi fort sort le 8 septembre, oui. Et le tralala dont on vient de parler, le 6 octobre.
C'est ça.
Merci en tout cas, Mathieu.
Merci à vous.